En faisant donc l'impasse sur tout ce qui avait suivi, et tout spécialement, évidemment, le Concile de Trente et le magistère du XIXe et du XXe siècle. La fausse réforme, pour Congar, c'était la réforme de Luther, qui s'est opposée de front, qui avait voulu rompre avec ce qu'il appelait les structures. Essentiellement, il voulait dire les dogmes, quand on lit bien son livre. La vraie réforme, c'est celle qui ne va pas rompre avec les structures, mais c'est celle qui va les dépasser, plus exactement, qui va passer à côté, ou je dirais en dessous. En ce sens-là, je cite toujours le père Congar, l'Église, qui en sortira de cela, de cette vraie réforme, serait une Église autre. Mais elle ne serait pas une autre Église. Ça, c'est très congardien, et c'est très théologie nouvelle. Donc elle serait autre, mais pas une autre Église, un autre corps ecclésiastique, ne serait pas un autre corps ecclésiastique que l'Église catholique. Bon, il faudrait évoquer aussi autour de lui le père Chenu, dont je vais parler très brièvement, qui a écrit un livre tout à fait fondamental, Une école de théologie de Sochaux, paru en 1937, hors commerce, la même année que Chrétien des Unis, qui a été mis en index en 1942, qui a fait que la charte du père Chenu de région des études au Sochaux, région des études des dominicains français, de la province de France, lui a été retirée, et qui prenait quelque chose qui, de soi, est excellent, comme souvent dans ce type d'idée, c'est-à-dire une remise en contexte historique, pleine d'intérêt, des textes des grands scolastiques, et notamment de saint Thomas. Mais il ajoutait, ce qui est plus embêtant, je cite, « La plus parfaite systématisation théologique n'ajoute pas une once de lumière et de vérité à l'Évangile, ce qui met par terre tout le travail dogmatique, théologique, non seulement scolastique, mais même préscolastique, mais aussi, évidemment, du magistère, tridentin et autres. N'ajoute pas une once de lumière en soi, on est bien d'accord, hein, le dogme ne change rien à la matière de la foi. Mais il ajoute, relativement, dirait saint Thomas, je suis d'accord sur l'essentiel, mais relativement, tout de même, une certaine lumière, celle de l'expression de la foi, d'où la nécessité de cette expression. D'ailleurs, le père Chenu était bien obligé, lui aussi, de faire un travail théologique, c'est-à-dire un travail d'expression de la foi. Et qui plus est, on pouvait rétorquer au père Chenu que dans le Nouveau Testament lui-même, se trouve une véritable élaboration théologique. Par exemple, en saint Jean, dans les Épîtres, et même dans l'Évangile, le début de l'Évangile selon saint Jean, entre autres, bien sûr. Bref, j'en viens à mon deuxième point. 1950, c'est la manifestation de ce que l'on a appelé la nouvelle théologie. Nouvelle théologie, c'est un terme de Pie XII, plus exactement un terme qu'a assumé Pie XII et qu'il avait pris, vous disais-je tout à l'heure, Monsieur Parente, qu'il a employé pour la première fois à la Convention générale des Jésuites, ça n'est pas un hasard, de 1946. De ce courant, comprenant des signes jésuites, émanait également, mais sur un mode plus modéré, je ne sais pas, oui, certainement, enfin encore que, une critique de la théologie scolastique traditionnelle, laquelle, il faut en convenir, y prêtait le flanc par une sclérose certaine, notamment et spécialement dans sa version à l'usage des séminaires et des manuels de séminaires, ça on peut tout à fait le concéder. Mais à travers elle, à travers cette rigidité des formulations et cette sclérose, d'accord, des formulations étaient visées en fait la rigidité des formulations dogmatiques elles-mêmes, grandement tributaires de cette scolastique. Et là, on se trouve évidemment en surplomb sur tout ce qui va se passer dans les années 60, dans les 65 et la suite. Passer donc les hésitations postérieures à la crise moderniste, la critique historique avait été largement adoptée par le monde catholique, passé peut-être, c'est possible, le monde catholique intellectuel catholique du XXe siècle. Et au XXe siècle, comme précédemment, avant la crise protestante plus exactement, pendant et après, on a redécouvert ce qu'on appelle la théologie positive. c'est-à-dire la théologie directement fondée sur l'étude des pères, ou souvent telle, la théologie monastique, je citais Saint-Bernard, on pourrait en citer bien d'autres encore, moins rigoureusement formalisée que la théologie de l'école, hein, des écoles de, à partir du XIIe siècle, le XIIIe siècle et en suivant, et que la théologie thomiste, tout spécialement, qui va devenir par excellence la théologie catholique, avec évidemment le renouveau thomiste à l'époque de Léon XIII. En fait, on parlait de redécouverte des pères de l'Église, ce qui était une très bonne chose. C'est l'époque où la collection des sources chrétiennes de Daniel Houle, Lubach, Mondésert, et puis des quantités d'études spécialisées, a fourni un travail considérable et qui continue toujours, qui est extrêmement précieux, d'édition critique et de traduction de textes grecs, de textes latins. Malheureusement, cette visée était gauchie par le fait qu'en mettant sous les projecteurs la théologie positive, on entendait aussi minorer l'intérêt de la théologie scolastique. Même chose d'ailleurs, qu'au XVIe siècle, saint Ignace, dans ses exercices spirituels, dans les règles pour sentir avec l'Église, qui connaît bien les jésuites, cette tendance de la théologie, enfin c'est cette double tendance, et la mauvaise chose qu'on peut tirer de ce soulignage ou surlignage de la théologie scolastique, dit qu'il faut louer également la théologie scolastique et également la théologie positive. Il ne dit pas en ces termes, mais c'est ce qu'il dit, positive scolastique. Le milieu propre donc de cette nouvelle théologie a été celui, pardonnez-moi, des jésuites français dont je vous ai parlé, de Lyon-Fourvière. La chose est apparue par la polémique, comme toujours d'ailleurs. Les polémiques font avancer les choses. C'est pourquoi je ne suis pas trop honteux d'être un peu polémique ce soir. La polémique, donc, en 46-48, a été lancée par la revue thomiste des pères dominicains de Saint-Maximin et Toulouse, la province de Toulouse, donc, qui se trouvait être, pour le dire en termes politiques, plus à droite, plus traditionnel, que la province de France, c'est-à-dire la province de Paris, et surtout, évidemment, que les jésuites de Fourvière. Et la revue thomiste a lancé, non pas un brûlot, mais une série d'articles, hein, du père Labourdette, du père Nicolas, lequel a été mon professeur à la fin de sa vie, contre un ouvrage du père Henri Lubac, mais tout spécialement le surnaturel du père de Lubac, contre le père Fessard, contre le père Bouillard, contre Font Balthazar, qui à l'époque devait, sauf erreur de ma part, être encore jésuite. Contre donc ce qu'on commençait à appeler la nouvelle théologie, et spécialement cette minoration de la formulation scolastique de la théologie et donc du dogme. La revue thomiste justifiait l'expression scientifique rigoureuse de saint Thomas, du thomisme, du néothomisme, et donc de la revue thomiste, bien entendu. Un des personnages principaux d'ailleurs de cette affaire-là était le fameux père Brugberger, qui était secrétaire à l'époque. Il a fait bien d'autres choses après, de la revue thomiste. Et donc elle défendait, la revue thomiste, contre l'école de Fourvière, la possibilité pour l'esprit de saisir dans ses notions les mieux assurées une vérité intemporelle dans ce travail théologique et scolastique. Et dans le même temps, s'est lancé dans la bataille un très grand batailleur qui va la perdre, à savoir le père Réginald Garrigou-Lagrange, qui, dans un article beaucoup plus fort et beaucoup plus polémique de la revue Romaine Angelicum, la revue de l'université dominicaine de Rome, qui aujourd'hui, enfin on pourra en parler dans les questions, joue un rôle assez important dans les choses présentes, dans les événements présents. Donc, en octobre 1946, un article intitulé « La nouvelle théologie, où va-t-elle ? Elle va contre le mur. » Je traduis, je résume l'article du père Garrigou-Lagrange. Elle a paru très intempestive à ses confrères de Saint-Maximin, parce que ce n'est pas la finesse, c'est l'élégance du père Nicolas. Mais la réponse nulle. Il n'y a pas eu de réponse de la part de Fourvière, et surtout pas du père de Lubac, que j'ai eu l'honneur de connaître un tout petit peu, et qui avait cette force, dans ce type de polémique, d'être d'un mépris parfait pour ses contradicteurs. Voilà, les choses en sont restées là. L'influence du père de Lubac a été tout à fait certaine dans la suite, hein, malgré la semi-condamnation qu'il a essuyée par, bien qu'il ait dit le contraire, par l'encyclique Humani Generis de Pie XII, qui visait son livre Le Surnaturel pour lui. Donc c'est un point qui paraît annexe, mais qui n'est pas sans importance dans le développement œcuménique de la suite. Dans la conscience de tout homme se trouve l'aspiration à l'infini surnaturel. Autrement dit, défendait au contraire de manière très forte l'école thomiste, et comme le défendra notamment le cardinal Siri en attaquant très fortement dans Gethsemane le père de Lubac, la distinction radicale, malgré la jonction, bien évidemment, dans l'humanité sainte de Jésus-Christ et donc dans l'Église, etc., entre naturel et surnaturel, n'était pas faite par lui. Bien, je passe sur toutes ces choses pour en arriver au troisième point, pardonnez-moi d'être aussi rapide de mon exposé, mais en signalant que ces options théologiques se liaient chez ces auteurs tant dominicains que jésuites et autres encore, avec d'autres mouvements, avec cette espèce de grand bouillonnement des années 50. C'est l'époque des prêtres ouvriers auxquels s'intéressent beaucoup, et ils servent même de mentors, le père Congard, le père Chenu, les dominicains du Sauchoir, enfin, un certain nombre de dominicains du Sauchoir. C'est l'époque, la grande époque de l'émergence de l'œcuménisme, avec dès le départ cette ambiguïté fondamentale qu'on trouve dans les écrits du père Congard, à savoir que l'œcuménisme est posé comme une nécessité, mais sans recevoir aucune définition. Qu'est-ce que l'œcuménisme ? Est-ce l'uniatisme traditionnel qui consiste à faire revenir dans l'Église des églises séparées et des communautés séparées? Non, c'est pas ça. Le cardinal Wilbrandt dira que l'œcuménisme, ce n'est pas un retour, on préfère. Ou bien alors, est-ce le fait de laisser les églises et les communautés séparées dans leur état de séparation, et par conséquent la constitution d'une espèce de fédéralisme chrétien un peu semblable au Conseil œcuménique des Églises? Non, ça n'est pas cela, ça serait l'hérésie. C'est une troisième voie, non définie. C'est quelque chose entre les deux. On s'aperçoit d'ailleurs actuellement dans le retour d'un certain nombre d'anglicans dans l'Église catholique. On ne peut pas dire que c'est de l'œcuménisme, c'est un véritable retour, il ne s'agit pas d'œcuménisme. Donc, le lien avec les choses sociales, lien avec les politiques, parce que les prêtres ouvriers, c'était très politique, lien avec l'œcuménisme, lien avec une réforme catéchétique, il faudrait parler de tas de choses, mais lien surtout avec de cette nouvelle théologie et de ces dominicains, avec le mouvement liturgique, notamment avec le centre de pastoral liturgique en France, les dominicains comme les pères Roguet, Dupoyer, mais aussi évidemment tous les membres belges du mouvement liturgique dont Olivier Rousseau, le père Baudouin, tous très liés les uns les autres avec le père Danielou, le père de Lubac, etc. Et la revue Irène Cohn, des passages en tous sens entre le doctrinal et le liturgique, ce qui est tout à fait normal. D'où mon troisième point. 1950, c'est le moment du basculement du mouvement liturgique. Pour comprendre cela, il faut faire un rapide retour sur ce que l'on appelle le mouvement liturgique. Ça, c'est vous qui l'avez inventé. Vous, les Belges, et c'est une très bonne chose, en un sens, parce qu'il y a eu, et il y a toujours, il reste peu de choses, mais après tout, ça reviendra, un très bon mouvement liturgique. Il a émergé comme tel, avec dont Lambert Baudouin, qui est né en 1873 et qui est mort en 1960, avant donc la réforme liturgique pour laquelle il avait beaucoup œuvré, moine du Mont César en Belgique, et qui a été aussi un des pionniers les plus hardis du mouvement œcuménique. C'est donc Bott, dans son histoire du mouvement liturgique de 1973, qui dit « Tout le monde est d'accord pour placer la date de naissance du mouvement liturgique au congrès de Malines, donc en 1909, nous y sommes presque, je demande le lieu. Dans le mouvement liturgique, ça c'est bien vieux quand même. La liturgie devait être, c'est très, très bien, une action commune de tous les fidèles, et pas seulement du prêtre. Elle devait devenir une source de spiritualité, comme si elle n'avait pas été, se dit Baudouin. Enfin, ça c'est toujours pareil, ces espèces de retrouvailles avec les choses du passé font quand même l'impasse sur beaucoup de choses qui ont précédé. Donc retrouver, être la source de la spiritualité chrétienne, de la vie spirituelle de tous,